France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de la confiance cette semaine, de sa valeur, mais aussi de ses naïvetés et limites, d'où cette question à l'envers ce matin. N'y a-t-il pas une vertu politique de la méfiance ? On nous rebat souvent les oreilles à propos de la confiance à restaurer entre gouvernés et gouvernants. Pourtant, n'oublions pas que beaucoup de courants de pensée font plutôt l'éloge de l'attitude méfiante qui consiste à surveiller nos représentants politiques. Ce motif de la surveillance traverse toute la tradition libérale, c'est explicite chez John Locke et chez Benjamin Constant. Quant au pan rousseauiste de la pensée républicaine, il dénonce l'existence même de représentants du peuple pour légiférer, et s'il admet qu'il faut parfois s'en accommoder, c'est en les tenant en laisse, pourrait-on presque dire, par des mandats impératifs très contraignants. Thomas Jefferson, qui avait lu et les libéraux et Rousseau, a laissé dans ses papiers cette remarque, je cite, « Nous nous abuserions dangereusement nous-mêmes si la confiance, confidence, dans nos élus devait faire taire les craintes que nous entretenons pour nos droits. La confiance est partout parent du despotisme », ajoutait Jefferson. « Le gouvernement libre, lui, est fondé sur la jalousie, jealousy, et non sur la confiance, confidence. » Formule intéressante, d'où notre question ce matin, la confiance n'est-elle qu'une fausse valeur politique beaucoup trop ressassée ? Bonjour Sylvie Servoise.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature française et comparée et rédactrice en chef de la revue Raison Publique. Parmi vos divers travaux, il y a un ouvrage paru chez Hermann en 2022 intitulé « Démocratie et roman, exploration littéraire de la crise de la représentation au XXIe siècle ». Eh bien, on a hâte ce matin d'apprendre par votre bouche ce que les romanciers d'aujourd'hui disent de la confiance et de la méfiance envers nos représentants politiques. Bonjour Gérard Roy.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, président aussi de l'Université populaire des Hauts-de-Seine. La question de ce qu'est un peuple vous meut depuis longtemps. Vous venez de faire paraître chez Quimet un nouveau livre intitulé « Faire peuple », mais « peuple » est au pluriel. Enfin, bonjour Philippe Lemoine.
Bonjour.
Vous avez travaillé dans la haute fonction publique et dans le monde des grandes entreprises, notamment comme directeur des Galeries Lafayette. Actuellement, vous présidez une fondation, le Forum Action Modernité, et vous publiez des essais de réflexion. Ainsi, en 2018, aviez-vous fait paraître une révolution sans les Français, point d'interrogation, action citoyenne et transformation à l'âge numérique. C'était un livre qui exprimait, si vous me permettez l'expression, une attitude de confiance-méfiance à l'égard du tout nouveau président de l'époque, Emmanuel Macron. Eh bien, j'aimerais vous faire revenir sur ce livre 7 ans plus tard. Pour commencer notre réflexion dans ce studio sur les vertus politiques respectives de la confiance et de la méfiance, voici un grand classique.
Ah ! C'est toi, Kat ?
Tout juste, petit homme. Je suis si satisfait de te revoir.
Oh non, va-t'en. Laisse-moi tranquille.
Laisse-moi te regarder.
Oh non ! C'est très bien ce que tu essayes de faire. Oh !
Tiens donc, je veux dire, tu te défies de moi ?
Oui !
N'y a-t-il rien que je puisse faire pour toi ?
Quoi ? Tu veux m'aider ?
Sans aucun doute. Entre autres, faire en sorte que jamais, jamais tu ne quittes la jungle.
Et de quelle façon ?
Oh, j'ai quelques moyens subtil en réserve. Mais pour cela, il faut avoir confiance.
Je n'ai plus confiance en personne.
Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi.
Trust in me. Just in me, shut your eyes, in me.
Vous aurez reconnu le serpent K du livre de la jungle dans la version de Walt Disney à partir de l'ouvrage de Rudyard Kipling. Le serpent K qui essaye d'hypnotiser Mowgli, le petit homme, pour le dévorer et qui pour ce faire lui dit d'avoir confiance. C'est un hymne pour le coup à la méfiance. Les pouvoirs qui exigent trop de confiance sont des pouvoirs dangereux. Sylvie Servoise.
Oui, alors ce qui est intéressant avec le petit passage que vous nous avez montré et fait écouter, c'est que d'abord, K part du principe que c'est normal de ne pas avoir confiance. Quand Mowgli lui dit « je n'ai plus confiance »,
oui, c'est vrai.
Il dit « mais moi je ne suis pas comme les autres ». Et dans la chanson, c'est « trust in me, just in me ». Donc il y a cette idée qu'on peut se méfier des autres, mais pas de celui qui incarne le pouvoir ou qui a l'intention de vous manipuler. Donc la méfiance, c'est une disposition finalement qui existe, mais elle concerne toujours quelqu'un d'autre. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Mowgli dit « tu te défies de moi ». Enfin non, c'est K, pardon, dit « tu te défies de moi » et pas « tu te méfies de moi ». Donc là, c'est peut-être aussi l'occasion, on en parlera peut-être, de réfléchir sur la distinction entre défiance et méfiance.
Quelle distinction feriez-vous d'emblée entre ces deux mots, Sylvie Servoise ?
Je dirais que la méfiance, c'est peut-être plutôt une disposition existentielle qu'on a à l'égard de tout. On est méfiant à l'égard de son voisin, à l'égard des pouvoirs. C'est quelque chose qui tient de l'éthos, en fait, de la manière dont on voit le monde. La défiance, je suis pas la seule à aller dans cette direction-là. Il y a Michela Marzano qui a écrit un livre qui s'appelle Le contrat de défiance, où elle dit que la défiance, c'est quand la confiance a été rompue. Donc, il y a une historicité de la défiance.
Il y a une déception.
Il y a une déception. On a fait confiance à un moment et les espoirs ont été déçus.
À mon avis, la distinction, je la vois là. Il y a quelque chose sur la vue défi aussi, les mots sont proches.
Bien sûr.
Donc, à la fois, il y a une déception et il y a une sorte d'agressivité singulière.
Parce qu'on en veut à la personne ou au pouvoir qui vous a déçu, dans lequel on a placé ses espoirs.
Philippe Lemoine, tout candidat à la présidence de la République désire faire entendre qu'on a à juste titre été déçu par les précédents, mais que comme vient de le souligner Sylvie Servoise à propos du serpent K dans le livre de la jungle, celui-là, ce nouveau candidat, just him, juste lui, on peut avoir confiance en lui. Ça a extraordinairement marché à l'époque dans la candidature d'Emmanuel Macron qui insistait sur objectivement des différences de parcours et d'âge entre lui et les précédents.
Ah oui, certainement. Ceci étant dit, pour reprendre avec d'autres mots la distinction entre méfiance et défiance, moi je pense qu'il y a deux types de méfiance très différentes. Il y a une sorte de méfiance de principe que l'on trouve vraiment chez toutes les personnes qui sont des gens de pouvoir. Je pensais au titre d'un livre écrit par un grand patron, le gars qui dirigeait Intel à une époque, qui s'appelait « Seuls les paranoïaques survivent ». Donc voilà, quand on est dans le jeu du pouvoir, il faut se méfier.
Donc les puissants eux-mêmes sont méfiants.
Sont très méfiants. Et puis la méfiance du ras-le-bol, qui provient peut-être d'une confiance déçue, qui est éruptive, mais je pense que c'est un peu une erreur de penser que systématiquement, par exemple, les Français seraient des gens réfractaires, gaulois, mauvais coucheurs, qui seraient jamais prêts à faire confiance. Au contraire, moi j'avais été frappé en 2017, au moment de l'élection de Macron, pour lequel je vais plutôt en rapport de méfiance-confiance que de confiance-méfiance, par le fait que les personnes étaient prêtes à entrer dans le jeu. Alors que sur le plan des idées, sur le plan de la forme, très certainement le fait qu'il ait été jeune, qu'il ait été dynamique, qu'il ait voulu mener une stratégie un peu numérique d'ubérisation des partis politiques, de passer au-dessus comme ça pour apporter une parole neuve, a semblé assez neuf. Mais sur le plan des idées de fond, le fait de vouloir opposer, dans le substituer à l'opposition gauche-droite, une opposition entre la mondialisation, les tenants, les profiteurs de la mondialisation et ceux qui y perdent, etc. C'est une sorte de vieille idée qui vient depuis les années 90, de la façon dont Bill Clinton, Tony Blair, etc. ont créé tout un courant de pensée qui a marqué énormément de pays européens, qui a marqué l'Allemagne, qui a marqué les Pays-Bas, qui a marqué et qui est arrivé, je dirais, avec Macron en fin de course.
Très tard.
En France,
oui.
Très tard. Et donc, c'est plutôt une queue de comète qu'un début, ce qui s'est traduit par le fait qu'il y avait un effet de nouveauté. Mais très vite, les personnes ont été désorientées.
Mais alors, sur ce point, justement, vous venez de le dire, Emmanuel Macron a suscité une confiance. Plein de gens n'avaient pas lu son livre « Révolution », mais ce personnage a réussi à susciter un engouement. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il a été le premier surpris quand ça s'est tassé. C'est comme si le retour de la méfiance traditionnel à l'égard du pouvoir était une déception formidable pour lui. Est-ce que vous avez aussi eu cette impression ?
J'ai eu absolument cette impression, dans le fait qu'il ne percevait peut-être pas à quel point les idées qu'il mettait en avant étaient les idées qui n'avaient pas de fraîcheur, pas de nouveauté. Dès les élections législatives qui ont suivi cette élection présidentielle, il y a eu un nombre d'abstentions en France phénoménal, 54% d'abstention au deuxième tour, dont les deux tiers des personnes disaient « Je ne me reconnais pas dans les idées de ce débat. » les personnes ne sentaient pas. Or, on était dans une période dans laquelle, sur beaucoup de plans, par rapport au numérique, par rapport à l'écologie, par rapport à des questions nouvelles, les personnes étaient en avance sur la classe politique. Donc, elles ne voyaient même pas, dans les idées qui étaient proposées, quelque chose qui était à leur niveau. Par contre, je pense que, dans le cas d'Emmanuel Macron, il y a un autre phénomène qui est, au-delà de la défiance, il y a quelque chose qui est apparu peu à peu et qui était proche de la haine et du rejet, qui est la tentative, à mon avis, intéressante qu'il avait de recréer une forme de verticalité, mais il s'y est pas bien pris. C'est pas la bonne verticalité qu'il a voulu.
On va revenir sur ce problème de la verticalité qui est en plein, me semble-t-il, dans le sujet de la confiance et de la méfiance vis-à-vis du pouvoir. Gérard Bras, vous êtes un philosophe qui travaillait beaucoup sur cette notion de peuple.
Oui.
Et à l'époque moderne, la notion de peuple, elle s'exprime en politique, c'est ça la démocratie, mais en général, il s'agit d'une démocratie représentative, il y a des représentants. Tous les démocrates ne pensent pas que c'est la meilleure formule, mais enfin, on n'a pas trouvé tellement d'autres. Il n'y a guère que les cantons suisses qui nous offrent régulièrement.
Et encore pas tous.
D'autres exemples, voilà. Alors, bien évidemment, vous commentez le serpent car, comme vous voulez, ça a peut-être suscité en vous des remarques. Bah, écoutez, après, j'aurai des questions en reprenant cette image. Je vous écoute,
oui.
Si vous voulez
tout de suite réagir. Oui, c'est très intéressant parce que effectivement on a une sorte de distinction entre défiance méfiance dans le dialogue entre les deux. Le serpent dit tu te défies de moi et l'enfant, j'ai perdu son nom,
Mowgli
pardon, répond je n'ai plus confiance en personne. Et oui, on est dans la jungle. C'est une magnifique définition de ce que les classiques ont appelé l'état de nature. Je n'ai plus confiance en personne, c'est-à-dire méfiance généralisée. Alors, il y a un jeu sur méfiance-défiance, on n'en sortira pas, parce que j'ai l'impression que la valeur du terme s'est inversée depuis le 19e siècle. C'est clair, il y a une belle formule de Littré qu'on trouve un peu partout. Le défiant craint d'être trompé, le méfiant croit qu'il sera trompé. Le méfiant est dans une situation d'anomie. Et c'est exactement ce que dit Mowgli. C'est une situation d'anomie, c'est la jungle, et quand on a confiance en personne, on ne peut plus vivre. La vie n'est plus possible. Quand on a confiance en l'autorité, on est soumis. On est en situation de servitude. Et je trouve que là, on a clairement le problème qui est posé, et qui est posé par la question de la représentation.
Alors, je vais poursuivre un instant avec le serpent K, Mowgli et Bagheera dans la jungle, parce que c'est Bagheera, la panthère, qui va sauver Mowgli de l'hypnose très dangereuse que lui impose le serpent K. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que plus tard, le serpent K va hypnotiser Bagheera.
Et là, ce sera Mowgli qui sauvera la panthère Bagheera du pouvoir malfaisant du serpent K. Autrement dit, nous avons aussi un exemple de solidarité, j'ai presque envie de dire des gouvernés, par rapport à une figure du pouvoir qui essaye de dévorer, comme elle le peut, chacun des gouvernés. Il y a quelque chose de cet ordre. Est-ce que vous vous avez prononcé le mot de servitude, Gérard Bras, il y a évidemment ce très fameux discours sur la servitude volontaire de la Boétie de 1548. Ne dit-il pas exactement cela ? Ayons confiance, créons des amis entre nous, horizontalement. C'est ce qui nous rendra plus forts face au pouvoir vertical dont nous avons tendance à oublier qu'il est finalement faible par rapport à nous tous.
Absolument. Et le sous-titre, il faut revenir aussi sur le sous-titre du texte de la Boétie, contre un.
Contre un. Le pouvoir qui est un et qui,
alors, appelle, justement, qui n'a pas finalement d'autres ressources que d'en appeler à la confiance. D'accord. On peut renverser la question et se demander qui a intérêt à poser la question de la confiance en disant « faites-moi confiance ». Ou, pire, en reprochant au peuple, en reprochant aux gens d'en bas, de ne pas faire confiance. C'est la figure la plus perverse, c'est-à-dire la figure qui injecte de la moraline, celle qui dit « vous avez tort, vous êtes, vous, coupable du délitement du lien social, alors que si vous faisiez confiance, il n'y aurait plus de problème, les choses iraient bien ». Ce point de vue du gouvernant qui s'auto-proclame comme le seul garant du bien du peuple, comme le seul garant de la bonne politique, de la bonne gouvernance.
Diriez-vous, comme la Boétie, cultivons la confiance entre nous, horizontalement, mais du point de vue du rapport au pouvoir vertical, cultivons la méfiance ?
Cultivons la méfiance ou cultivons l'exercice du contrôle systématique, cultivons l'exercice des propositions systématiques. Et c'est pour ça qu'il faut ce double jeu de l'horizontalité, construire les conditions d'une entente, construire les conditions du commun, qu'il puisse y avoir du commun, tout en sachant, même en bas, que chacun peut tirer la couverture à soi, que chacun est un homme comme les autres, affecté de passion et donc capable de tirer la couverture à soi, et donc se donner des règles pour être en situation de respecter les engagements qui sont pris.
Nous parlons des vertus de la méfiance en politique, titre volontairement inversé, puisque en fait nous sommes dans une série cette semaine sur la confiance. Et nous parlons beaucoup du rapport aux représentants politiques. Est-il normal et sain de se méfier d'eux ? Je suis en compagnie de Sylvie Servoise, Gérard Bras et Philippe Lemoine. Alors nous allons parler un peu avec Sylvie Servoise des romans contemporains qui mettent en scène des représentants politiques qui suscitent, vous nous direz, est-ce que les romanciers préfèrent représenter la méfiance ou au contraire la confiance. Mais une chose est frappante, c'est que certains de ces romanciers peignent des personnages représentants politiques qui sont des milliardaires ou des gens qui ont plutôt fait fortune, qui ont réussi dans les affaires. Et ça, bien sûr, c'est une intuition formidable qu'ils ont eue. Ces romanciers, je vous envoie, si je puis dire, un son d'Elon Musk qui va, vous allez l'entendre, nous permettre de voir quel genre de discours, le discours de la simplicité et de l'efficacité, semble aujourd'hui marcher et produire de la confiance. Écoutez-le, c'était le 4 novembre dernier.
What happens is, every year there are more rules and regulations.
Chaque année, de nouvelles règles et réglementations sont créées. Et dans le passé, la guerre a joué un rôle de purification au niveau des réglementations. Parce qu'on aurait perdu si on n'avait pas fait le ménage. Mais nous n'avons pas vraiment eu de menaces existentielles de guerre aux États-Unis et nous avons la prospérité depuis longtemps, ce qui a entraîné une accumulation massive de règles et de réglementations chaque année, au point que tout est illégal. Ce n'est pas comme si une réglementation était le problème, c'est comme si Gulliver était attaché par un million de petites ficelles. Une seule ficelle n'est pas un problème. mais vous en avez un million. Nous devons donc faire le ménage ici. Et je ne dis pas que nous ne devrions pas avoir de régulateur. Je dis juste que nous sommes allés bien trop loin.
Autrefois, dit donc Elon Musk, les guerres faisaient régulièrement le ménage dans les réglementations. Il n'y a plus beaucoup de guerres. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas vu ce qui se passe. Et donc, il convient de faire le ménage autrement, mais de manière analogue à ce ménage produit normalement par les guerres. C'est un discours qui ne vous étonne pas, Sylvie Servoise. Est-ce que c'est ce discours-là que traquent aussi beaucoup de romanciers quand ils mettent en scène des personnages successful, je suis désolée, il n'y a pas vraiment de mot français pour dire la même chose, dans les affaires, qui séduisent politiquement?
Oui, alors là, c'est vous m'invitez à parler, à regarder un peu du côté de la littérature américaine, et je pense notamment au livre de Jonathan Dee qui a été traduit sous le titre Ceux d'ici en français, un livre qui date de 2017, qui est en fait un paysage de l'Amérique des milliardaires, où en effet, vous avez une figure de riche New-Yorkais qui a eu du succès dans les affaires et qui va régler tous les problèmes, alors non pas avec une seule loi simplificatrice, hein, comme parle Elon Musk, mais avec son carnet de chèques. Et ce qui est intéressant dans ce roman, qui vraiment montre l'étiolement de la démocratie, puisque le roman se situe dans le Massachusetts, donc dans le berceau de la démocratie américaine,
oui.
C'est une petite ville fictive, qui connaît un certain nombre de déboires, et donc arrive cette homme providentiel, Philippe Addy, qui a comme particularité, et c'est intéressant parce qu'en fait c'est un milliardaire, mais qui contrairement à d'autres modèles comme par exemple celui de Berlusconi, ne va pas chercher à gérer la petite ville américaine, qui est une mitonymie en fait, c'est l'Amérique en miniature, il va pas chercher à gérer cette petite ville américaine comme une entreprise, il va plutôt la gérer comme une fondation. Donc je pense que quand on parle du personnage à succès, du milliardaire, il y a différentes possibilités qui s'ouvrent, et ça les romanciers en offre plusieurs incarnations. Donc lui, il est sur le mode du mécène. Il va gérer la ville comme si c'était une fondation, et donc résoudre les problèmes avec son carnet de chèques. Il y a un petit restaurant qui est en faillite, qu'il affectionne. Il va le retaper. Il veut installer des caméras de vidéosurveillance. Le conseil municipal n'est pas d'accord. Il va le payer de sa poche. Et donc il y a comme ça une privatisation, en fait, du pouvoir politique, aux deux sens du terme. À la fois au sens où ce sont les règles du secteur privé qui vont s'adapter, qui vont s'appliquer au secteur public, et puis son argent est en fait l'argent public. Il y a un autre modèle qu'on retrouve là dans un roman italien, c'est pas un hasard, qui est le roman de Giorgio Vasta qui s'appelle Dépaysement, et qui lui est un portrait au vitriol de l'Italie berlusconienne.
Donc là c'est 2010.
Et là c'est 2010.
Alors que Jonathan Dee, que vous avez 2017. Avant, c'est 2017.
Ouais. Donc, et là c'est une représentation de Berlusconi qui est vraiment voilà, la figure typique de l'entrepreneur, et qui, c'est très intéressant, apparaît comme une menace en fait pour le pouvoir démocratique, parce qu'en fait il précisément occupe ce lieu vide que doit être le pouvoir en démocratie, comme le dit Claude Lefort. Donc c'est cette figure qui mêle et rend complètement indistinguables les sphères de la loi, du pouvoir et du savoir, et qui est comme une sorte de dieu spinoziste, si on peut dire, puisqu'il est partout dans les airs. C'est le vecteur entre les choses, et il a imposé cette mentalité, on va dire, de réussite aux Italiens, à moins, et c'est la question que pose Vasta et qui est intéressante, que les Italiens n'aient eux-mêmes créé Berlusconi, qui ne fait en fait qu'incarner leur désir de réussite et qui n'est que la projection de ce qu'eux-mêmes voudraient être. Donc là, on retrouve un peu ce que vous disiez, Philippe Lemoine, hein, c'est qu'il y a une confiance aussi dans ces figures d'hommes providentiels.
Le roman montre de
le
la
roman
confiance.
Montre, mais plus que la confiance, là ça va plutôt dans le sens d'une défiance, c'est que en fait ils ont fait confiance, mais ça s'est traduit par une absence après totale de sens critique, et une apathie. Ce que montre le roman de Vasta, c'est à quel point l'Italie, la Sicile, est une belle endormie qui doit se réveiller puisqu'elle accepte tout.
Est-ce que la plupart des romanciers qui travaillent sur ce sujet de nos représentants politiques, et singulièrement des milliardaires ou des gens qui ont bien réussi dans l'économie, nous disent tous « attention les belles endormies ». C'est-à-dire que là, vous avez un hypnotiseur, en fait.
Oui, c'est ça, oui.
Un serpent cas des temps modernes. Je pense notamment à l'épitaphe du roman de Jonathan Dee, donc « Ceux d'ici, The Locals ». Ce qui m'obsède, c'est à quel point j'ai envie de tout bazarder. Cette espèce d'envie qui fait qu'on signe soi-même un chèque en blanc, à ces personnages qui signent beaucoup de chèques. C'est une forme de sommeil hypnotisé.
Oui, alors là, les deux romans, ils sont intéressants parce qu'ils développent vraiment une hypothèse contraire, en fait. Pour Vasta, il s'agit de dénoncer l'endormissement, l'engourdissement des Italiens qui se sont laissés hypnotiser par Berlusconi, parce qu'ils l'ont bien voulu. Et donc l'histoire, c'est vraiment l'histoire d'un réveil politique qui va prendre du temps, mais qui se termine de manière très concrète par la volonté du narrateur de reprendre les choses en main. Un point de vue personnel. Alors, il n'y a pas encore l'idée qu'il faut que ce soit une action collective pour changer les choses. Ça passe d'abord par une prise de conscience personnelle. Inversement, chez Jonathan Dee, il y a cette idée très forte que la méfiance à l'extrême peut être très dangereuse.
Ça, c'est très intéressant. Il faut qu'on parle de ce problème. Ouais.
Voilà. Et que, finalement, manifester une attitude de défiance trop importante à l'égard de l'État peut conduire à tout bazarder. Mmh. Et Jonathan Dee exprime ici vraiment une crainte qui est la sienne. Et pour rebondir un peu à ce que disait Gérard Bray, ce que vous disiez aussi sur la question de la verticalité et de l'horizontalité,
oui.
Ce que montre le roman de Jonathan Dee, c'est qu'en fait, la défiance à l'égard du pouvoir, elle est indissociable d'une méfiance de tout instant, de chacun à l'égard de chacun. Et donc, il montre à la fois une société du ressentiment et une défiance accrue à l'égard des pouvoirs politiques. Et donc, cette idée qu'il faut d'abord se faire confiance
entre nous
et cultiver une méfiance à l'égard de l'État,
oui.
ça va pas de soi.
Et là, donc, quand la méfiance s'installe, elle peut détruire tout.
Elle
peut
infiltrer
toutes les relations. Oui. Et ça, c'est souvent un terrain favorable à l'advenue d'un sauveur politique. Philippe Lemoine, que se passe-t-il avec les milliardaires ? Pourquoi sommes-nous dans un moment où les dernières figures qui semblent susciter un engouement, une confiance, dans, on est prêt à leur donner toute la verticalité du pouvoir. On l'a vu avec Berlusconi, on le voit en ce moment avec Elon Musk. Je dis Elon Musk parce que aux États-Unis, plein de gens soulignent que Trump est nul en affaires. Il a fait un nombre de faillites. Bon, il faut quand même juste le dire. Mais tout le monde l'a oublié. Alors comment, d'après vous, que se passe-t-il ? Pourquoi ces personnages-là ?
Je pense que, indépendamment du pouvoir, il y a le sentiment assez fort aujourd'hui que sur beaucoup de sujets, transformation du monde, transformation numérique, écologie, etc. Les élites, au sens général du terme, ont un discours vieux, qui ne marche pas. J'inclus dans les élites beaucoup de productions intellectuelles, beaucoup de personnes du monde de la presse, du journalisme, des gens qui... Voilà, avec l'idée que ça fonctionne pas. Et donc, partant de là, l'efficacité prouvée d'un milliardaire, de quelqu'un qui a gagné de l'argent en construisant des immeubles comme Trump ou autre, pourquoi pas ? Le défaut de Trump, c'est peut-être le fait qu'il ne dégageait pas assez d'horizon. Et en s'associant Musk ou autre, il s'associe avec des gens qui sont considérés comme les visionnaires d'aujourd'hui.
Oui.
Alors, moi, je pense que ça va pas durer du tout, parce que ce qui est impressionnant derrière Musk, derrière Zuckerberg qui vient prêter allégeance, c'est à quel point on a des personnes qui changent complètement de vision, qui étaient prêts hier à soutenir les démocrates, à soutenir un certain nombre de... qui, d'un seul coup, montrent que c'est tout sauf des visionnaires. C'est des gens qui sont extrêmement à courte vue, et je pense que c'est au contraire une fragilité très grande qui a été introduite par Trump dans son système.
Vous êtes sûr que ce ne sont pas des visionnaires ? C'est peut-être pas la vision qui nous plaît, mais il y a quand même un rapport à la conquête de l'espace, à la conquête de nouvelles technologies. C'est ça qu'incarne Musk. C'est une vision.
Est-ce que le regard de K est une vision ?
Serpent
je pense que c'est effectivement le fait de diffuser des images fascinantes. et qui, dans lequel un certain nombre de personnes se reconnaissent. Mais est-ce que c'est est-ce que profondément les populations ont le sentiment qu'on dégage un horizon crédible pour l'avenir? Je ne crois pas.
Alors, je vais évidemment vous entendre là-dessus, les choses qui viennent d'être dites, Gérard Bras. Mais si vous me le permettez, je vais rajouter un ingrédient avant votre intervention.
Bien sûr.
Nous allons citer, écouter un texte de Benjamin Constant, qui était député de la Sarthe à l'époque, en 1819. C'était un libéral, un penseur, libéral plutôt de gauche, pour l'époque. Il a produit un discours très célèbre qui s'appelle « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » et il définit la liberté des modernes comme la capacité à se donner des représentants. Mais attention, ne baissons pas la garde. Écoutez.
Le système représentatif n'est autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu'elle ne peut ou ne veut pas faire elle-même. Les individus pauvres font eux-mêmes leurs affaires. Les hommes riches prennent des intendants. C'est l'histoire des nations anciennes et des nations modernes. Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'hommes par la masse du peuple qui veut que ses intérêts soient défendus et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui-même. Mais à moins d'être insensé, les hommes riches qui ont des intendants examinent avec attention et sévérité si ces intendants font leur devoir, s'ils ne sont pas négligents, ni corruptibles, ni incapables. De même, les peuples qui, dans le but de jouir de la liberté qui leur convient, recourent au système représentatif, doivent exercer une surveillance active et constante sur leurs représentants et se réserver à des époques qui ne soient pas séparées par de trop longs intervalles le droit de les écarter s'ils ont trompé leurs vœux et de révoquer les pouvoirs dont ils auraient abusé.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons ce matin des vertus de la méfiance en politique avec Sylvie Servoise, Gérard Bras et Philippe Lemoine. Méfiance qui est une vertu pour Benjamin Constant, comme pour beaucoup de libéraux. Il faut surveiller ces représentants qui sont un peu comme nos intendants. Et quand on a des intendants, des gens qui travaillent pour nous, il faut vérifier qu'ils ne... tout ce qu'ils font, c'est normal. Est-ce que le problème n'est pas là aujourd'hui? C'est-à-dire que les modalités de la surveillance ne sont pas claires.
Oui.
Et notamment parce que pour Benjamin Constant, c'est net dans ce passage du texte, c'est la liberté d'expression et les journaux libres, soucieux des faits et orchestrant aussi des commentaires qui permettent de surveiller. Est-ce que ce n'est pas cette fonction, avant tout, qui va mal?
Oui, en bonne part. Enfin, j'aurais deux choses à dire sur ce que dit Benjamin Constant. Il y a peut-être un problème fondamental qui est l'analogie entre la sphère publique et la sphère privée. Les affaires privées, et ils passent par inférence. C'est la même chose, au fond, au niveau public, sans interroger la légitimité de cette transition. Les riches surveillent leurs intendants, il faut surveiller les élus. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on dit faut faire des économies. Le ministère des Finances, c'est un petit peu comme un bon père de famille qui gère la bourse commune, etc. Cette analogie est quand même assez problématique, parce qu'elle escamote une part du problème.
Oui.
Il pose bien une question. Effectivement, le représentant est en risque les représentants sont en risque de former un corps séparé de la nation. C'est un peu ce que Rousseau dit du gouvernement. Sont en risque de former un corps séparé de la nation et finalement de gérer leurs propres intérêts indépendamment, voire contre l'ensemble de la nation. Il y a toujours ce risque-là. Mais je crois que la démocratie représentative, c'est passablement compliqué tout au long du 19e et du 20e siècle. Il y a un petit peu trois piliers, et ces trois piliers sont également problématiques. La représentation, le statut des représentants, sont-ils à mandat impératif ou à mandat souverain? Et puis il y en a d'autres. Il esquisse le deuxième principe, celui de la liberté d'opinion. Mais elle va beaucoup plus loin que la simple liberté d'opinion avec la presse. ça va aussi, ce qui s'invente tout au long du 19e, qui s'institutionnalise au début du 20e, c'est la liberté de manifester. Oui. C'est-à-dire la liberté pour, comment le dire, le populaire, les couches populaires, ça a été le mouvement ouvrier, de dire nous ne sommes pas d'accord, y compris contre le peuple souverain.
En tout cas, nous mettons en lui, on va parler comme Machiavel, on arrive à Machiavel, ne vous inquiétez pas. nous mettons du tumulte. Et au fond, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que les modalités de la surveillance de nos gouvernants, c'est d'une part une liberté d'expression en forme,
absolument,
avec des journaux libres, mais qui aussi nous raconte le monde commun, des faits sur lesquels on est tous d'accord, et ensuite on s'affronte. Et on juge ce que font et disent nos gouvernants. Mais c'est encore, ajoutez-vous, la capacité de tumulte d'un peuple, de se mettre lui-même en question. Il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie de la vie, de ce qu'il y a de vivant dans un peuple face à son pouvoir.
Absolument, absolument. Capacité de tumulte, et pas seulement de tumulte. Je crois qu'il faut franchir un pas de plus par rapport à Machiavel, qui dit, en gros, si je parle dans un autre vocabulaire, le populaire, le popolo, a une puissance de destitution, a une force destituante. Ce qui s'invente après la révolution de 89 et tout au long du 19e et du 20e, c'est une capacité constituante, c'est-à-dire de faire des propositions, pas seulement surveiller les dirigeants, mais des comités de base qui sont capables, de façon autonome, à faire des propositions et à faire circuler ces propositions, à mettre en délibération, par en bas, une série de propositions. Ce qui fait qu'on est là, effectivement, dans une difficulté de la démocratie représentative qui est moins un régime qu'un processus. La démocratie, c'est un processus qui a à mettre en œuvre des dispositifs pour que, à la base, viennent des propositions nouvelles et que ces propositions soient mises en délibération publique. Donc, au-delà du tumulte machiavélien, formidable, fondamental, il y a aussi une puissance de proposition qui doit être mise en œuvre.
Alors, juste pour préciser pour nos auditeurs, la notion de tumulte, comme une chose très saine, souvent le peuple secoue sa tête qui est en train de pourrir, c'est vraiment ce qu'il nous dit, de se corrompre dans des tumultes. C'est une notion développée par Machiavel dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, écrit donc au début du XVIe siècle, même si ça n'a été publié que de manière posthume. Je vois, Philippe Lemoine, que vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit.
Non, je partage vraiment le point de vue qui a été défendu par Gérard Bas. Moi, ce qui me frappe dans le texte de Benjamin Constant, le contexte dans lequel il l'écrit, 1819, il est le représentant du Parti libéral, il y a eu la révolution, il y a eu la terreur, il y a eu ces excès, il veut faire oublier les excès de la liberté d'aujourd'hui moderne des individus, il veut valoriser le nouveau concept d'une liberté proche de la propriété, finalement, et faire oublier la liberté des anciens, celle de la démocratie directe. Il veut fonder, effectivement, l'idée de démocratie représentative. Et comment il parle ? Il veut que le peuple se comporte comme des hommes riches. Il dit, absolument, qu'est-ce que font les hommes riches ? Les hommes riches, ils examinent leurs intendants. Tandis que le peuple, il doit, c'est normatif, il devrait se comporter comme ceci ou comme cela. Ben non, le peuple, la révolution l'a prouvé, et la suite du 19e siècle le montre, il ne se comporte pas comme le pense Benjamin Constant.
Cela dit, il n'est pas contre les idéaux de 89. J'ai bien dit que c'était un libéral républicain. Mais il est vrai que le problème, en fait, que soulève Constant, puisque on essaye là de préciser les choses, c'est le fait que il y a un risque pour la démocratie représentative qui l'obsède, qui est le risque de l'apathie. C'est-à-dire, puisqu'on a des intendants, et c'est un risque libéral classique, c'est-à-dire qu'ils fassent le boulot de la politique, nous, on les a élus, occupons-nous de nos affaires privées. C'est une manière de lire Constant. Mais souvent, on tronque la fin de ce discours de 1819, où précisément, il dit, mais attention, surveillons-les, et surveillons-les notamment par l'outil de la liberté de la presse. C'est bien parce que nous nous sommes trop reposés sur nos intendants qu'arrive le pire. Et pour lui, le pire, c'est quand même Napoléon au pouvoir qui a supprimé la liberté de la presse. Sylvie Servoise, le problème, c'est que les milliardaires dont nous parlions, ça les intéresse beaucoup, la presse. C'était déjà le cas de Berlusconi. C'est le cas d'Elon Musk. La presse d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Or, ce n'est pas une presse. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de casser l'outil même qui est censé les surveiller quand ils sont au pouvoir?
Oui, sans doute. Et on parlait. Je pense que la question est assez complexe parce que la question de la méfiance ou de la défiance, au fond, elle ne concerne pas uniquement les politiques. Ce que vous évoquiez, Philippe Lemoine, rapidement tout à l'heure, ça touche aussi les productions intellectuelles, etc. Et de fait, les journaux, la presse, fait aussi l'objet de certains soupçons. Au fond, est-ce qu'ils sont pas, avec toutes les théories du complot, est-ce qu'on peut faire confiance aussi aux journaux? Et donc, les hommes politiques ou les femmes politiques qui s'appuient sur la presse doivent aussi tenir compte de cette méfiance qui est assez récente quand même dans l'histoire. C'est qu'au fond, la presse n'est peut-être plus ce contre-pouvoir, pouvoir de surveillance qu'elle a été pendant un certain temps.
En tout cas, on ne lui fait plus confiance.
On ne lui fait plus confiance.
Cela.
Voilà. Et si je peux revenir peut-être sur ce que disait Gérard Brass sur la capacité constituante du peuple. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, parce que là, jusqu'à présent, j'avais parlé des romans de la défiance qui mettent en scène des personnages, le peuple qui se méfie, qui se défie. Il y a aussi quand même certains romans qui s'appuient sur cette méfiance, mais pour proposer autre chose.
Hein. Par exemple,
Leslie Kaplan, dans Mathias et la Révolution, donc on reste dans cette période révolutionnaire, en fait, qui se situe à l'époque actuelle. C'est une espèce de fable, et vous avez un personnage qui s'appelle Mathias, qui erre dans Paris, à une époque, on sent qu'il y a des émeutes, donc on est dans une ambiance pré-révolutionnaire, et se promène à Paris et reçoit en quelque sorte, entend les condoléances, ou les doléances plus exactement, des Parisiens qui exercent leur pouvoir de surveillance, c'est-à-dire au fond, les choses ne se passent pas comme on nous l'avait promis, et ils mettent en rapport les promesses de la Révolution et la réalité de la démocratie représentative au XXIe siècle. Et donc, ils exercent ce pouvoir de surveillance, un peuple veto, comme peut le dire Rosan Vallon dans La contre-démocratie. Et ils ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire qu'en fait, ils réfléchissent ensemble à d'autres moyens de vivre ensemble et de constituer une autre forme, en fait, de police qui passe par la circulation de la parole et qui passe par le questionnement de certains des piliers de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui ne doivent plus être simplement des inscriptions au fronton des bâtiments publics, mais doivent redevenir des questions. Donc il y a cette capacité constituante, alors qui n'est pas encore constituante, puisque le livre reste ouvert à la fin, le travail commence, c'est la dernière phrase du livre, mais il y a d'abord cette capacité questionnante qui est mise en scène dans ce roman et qui s'appuie sur une défiance, une mise en crise, en fait, de la démocratie.
Et c'est un roman, parce que vous savez ce qu'on dit, hein, c'est la formule de Gide, on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Là, il y a des bons sentiments. Est-ce que ce livre, Leslie Kaplan, Mathias et la Révolution, est un roman qui vraiment soulève les cœurs, quoi, y compris sur le plan littéraire, qui redonne confiance dans un monde où les représentants seraient correctement surveillés, seraient peut-être souvent remplacés par d'autres de manière fluide, sans cette atmosphère un peu désespérée qui est la nôtre aujourd'hui.
Je dirais pas que c'est un roman qui donne confiance, enfin. Parce qu'il n'y a pas de solution. La fin du roman est ouverte. Par contre, c'est un roman qui a pour objectif de nous secouer, de nous réveiller. Et donc de lutter contre cette apathie. Et donc de cultiver la vertu politique de la défiance, pour le coup. Mais le travail est à faire. Et là, c'est un appel au lecteur. À vous aussi de prendre les choses en main.
Alors il y a aussi un autre problème, c'est que lorsque le peuple va dans la rue, dont venons de dire que ça fait partie de sa manière de surveiller nos représentants, de les défier, c'est plutôt sain, disent certains penseurs politiques. Enfin, il n'y en a pas beaucoup hein, qui le disent, mais il y a notamment Machiavel ou Étienne de la Boétie. Le problème, c'est qu'on a eu des spectacles qui ont produit de l'angoisse. Et je pense aux Gilets jaunes, ce qui me... Je me retourne vers vous à nouveau, Philippe Lemoine, vous qui avez écrit sur Emmanuel Macron en 2018. Vous étiez intéressé par son désir de remettre de la verticalité. C'était un défi. Il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes dans votre livre. Va-t-il réussir cela alors qu'il a surtout parlé de l'horizontalité dans sa campagne? Et puis à un moment, il y a eu les Gilets jaunes. Est-ce que ça... Comment vous, vous avez vu cela, ce mouvement?
Je pense qu'une des dimensions d'une crise assez généralisée de légitimité des hommes politiques provient du fait que la dernière grande vague d'idées liées au néolibéralisme, etc., qui avait été incarnée notamment par Clinton, Tony Blair, etc., avait été très marquée par les idées d'un grand sociologue qui est Anthony Giddens.
Oui, un Anglais.
Qui avait dit
oui.
C'est extrêmement important qu'un politique n'ait pas uniquement des projets, mais qu'il incarne lui-même quelque chose de la capacité de concilier les tensions qui traversent la société et qu'elle rende compte de ça. Alors, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais Tony Blair a été un excellent modèle de ce point de vue-là parce qu'il avait une histoire personnelle qu'il a racontée. Et tout le monde a imité ce qu'on a appelé après le storytelling et qui est quelque chose qui est arrivé en bout de course. Aujourd'hui, je pense que si on regarde la dernière campagne américaine,
oui.
On se rend compte que Kamala Harris, qui a eu peu de temps pour préparer sa campagne, s'est fait refiler les spin doctors d'Obama, etc., qui étaient des gens qui fonctionnaient encore au storytelling. Elle concevait bien qu'il fallait se méfier, pas trop jouer de la carte « je suis noire, je suis femme », etc., sur elle-même. Mais elle l'a fait un peu et... À un moment où tout ce discours-là apparaît comme un discours fossilisé, bien pensant, moralisateur, et où les personnes préfèrent quelque part quelque chose qui éructe, qui soit un peu carnavalesque, comme a été les propos de, comme signe d'une plus grande authenticité, parce que ce qui est cherché, c'est l'authenticité. Alors. Ce qui s'est passé aussi, ça a été l'impact extrêmement fort des réseaux sociaux sur lequel on pourrait dire qu'ils développent absolument pas une culture du surmoi, ça c'est sûr, pas une culture du moi, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, pas une culture de l'ego, mais beaucoup une culture du ça, des pulsions, des pour prendre un langage
freudien, ouais.
Psychanalytique. Par rapport à cela, il y a un besoin. Très grande verticalité dans la société. Et c'est ce que, je crois, une bonne intuition qu'a eu Emmanuel Macron, qui était d'essayer de restituer une forme de sacralisation de ce que, de la fonction qu'il voulait occuper. Mais il s'y est pris, je crois qu'il a confondu complètement la verticalité purement descendante
oui.
avec ce qu'aurait été le fait de construire une verticalité ascendante dans lequel le pays, les corps intermédiaires, etc., auraient été associés au respect de quelque chose. Et ce manque de respect est apparu surtout par rapport à une population qui avait fait confiance, qui l'avait élu, qui attendait une nouveauté, est apparu comme une gifle. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes était quelque chose qui est allé au-delà de la défiance dont on parlait tout à l'heure, qui est un discours de haine et qui a fait peur, je crois, au président de la République.
Et à vous? Ça vous fait peur que des mouvements sociaux prennent ce visage?
Non, je pense que le texte auquel vous référiez de Machiavel, de ce point de vue-là, est oui. très intéressant. La société, elle ne progresse que par des mouvements, des tensions au sein de la société. Vous savez, il y a un très beau texte aussi de Tocqueville, auquel j'avais pensé en préparant cette émission, dans lequel il décrit comment l'Ancien Régime a préparé la Révolution. Et comment il l'a préparé? C'est en réunissant des commissions de gens qui étaient extrêmement bien-pensants, qui pensaient réforme, qui ne pensaient jamais liberté, jamais moyen d'action donné au peuple. Et en lisant ce texte de Tocqueville, je pensais à une des matrices qui a été importante de la formation intellectuelle d'Emmanuel Macron, qui a été la commission... sur la croissance que Nicolas Sarkozy avait montée, dont Emmanuel Macron a été rapporteur, que des gens extrêmement bien, des chefs d'entreprise, des penseurs libéraux, des gens qui se réunissaient en pensant aux différentes réformes qu'il fallait faire en France, sans jamais penser à la manière de mettre en mouvement la société.
Mettre en mouvement la société, aujourd'hui, plus que la presse, on a des réseaux sociaux. Les mouvements sociaux, comme on les appelle, il y a eu des visages comme celui des Gilets jaunes qui a pu faire peur. Gérard Bras, les outils classiques de la surveillance de nos gouvernants vont mal?
Oui, sans doute. Je pense que, pour revenir un petit peu en arrière, il y a quelque chose qui est occulté par les gouvernants et qui tend à être occulté de façon générale. C'est l'irréductibilité du conflit au sein de la société. On parle en termes presque moraux. Il faut faire confiance. Vous avez tort, donc on culpabilise les couches populaires. Vous avez tort de ne pas faire confiance. Il faudrait faire confiance. Tout irait mieux si, etc. Mais à qui la faute? J'aime beaucoup cette formule de Spinoza qui reprend Tacite, pardon. Le peuple ou la plèbe, problème de traduction, est terrible quand elle est sans crainte. Et Spinoza commente, mais qu'est-ce qui la rend terrible? C'est la morgue des grands. C'est l'orgueil des grands qui ne l'éduque pas, qui la maintient dans l'ignorance. Et à partir de là, comment s'étonner d'un manque de confiance? Je crois que ce qui fait défaut beaucoup aujourd'hui, j'aime bien cette formule de Rancière, la question c'est monde contre monde. Il y a deux mondes qui sont susceptibles de s'affronter, celui de l'égalité et celui où l'inégalité va de soi.
Donc, demander la confiance. Jacques Rancière, je précise pour nos auditeurs, sur lequel nous avons déjà fait une série entière.
Une très belle série.
Philosophe contemporain. Peut-être que vous citez là son livre qui s'appelle La Mésentente.
Oui.
Qui est un de ses grands livres.
L'un de ses grands livres, un livre majeur pour cette réflexion politique, effectivement. Et où il montre que le problème, ce n'est pas celui de la gouvernance et de la confiance à faire aux gouvernants, mais que le problème, c'est de conduire un litige entre deux conceptions, entre deux mondes susceptibles de s'affronter. Est-ce que l'égalité peut être la base sur laquelle on s'appuie pour construire une société commune, ou est-ce qu'il faut admettre l'inégalité? Et dans cette idée de confiance, ce que je trouve, c'est que on a tendance à naturaliser, on a tendance à métaboliser l'inégalité. Il faut bien des gens qui nous sont supérieurs. Je veux dire que quand on se présente comme Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Dire que, vous voyez, j'aime bien cette formule de Spinoza, si vous permettez une seconde. Les hommes détestent rien moins que d'être gouvernés par leurs semblables. À partir de là, on a deux possibilités. Soit on va diviniser le gouvernant, soit on va mettre en œuvre des procédures démocratiques qui font que la puissance collective se met en avant.
Time is short, man to man.
chanson s'intitule « Don't know who to trust ». Je ne sais plus à qui je peux faire confiance, ça ressemble un peu à l'atmosphère des romans Sylvie Servoise que vous nous avez décrit, des romans contemporains qui parlent de la crise de la démocratie représentative. Et c'était donc Johnny Clark au sein d'une compilation qui a été faite entre, en grosso modo, 1975 et 1986. Merci à tous les trois, Sylvie Servoise, Gérard Bras, Philippe Lemoine, pour cette discussion ce matin sur la méfiance en politique. Je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms à présent, qui cette semaine évoque quatre femmes philosophes oubliées. Aujourd'hui, Simone Petremann.
Pourquoi Simone Petremann était-elle dualiste? Dans l'année 1927, il se produit un phénomène secondaire en lui-même et qui ne devrait pas poser de surprise particulière, mais qui est pourtant un enjeu historique majeur. C'est l'entrée de trois jeunes femmes philosophes à l'École normale supérieure. Pas l'École normale supérieure de jeunes filles, qui depuis a été fusionnée avec l'autre, mais l'École normale supérieure où les femmes pouvaient candidater pendant un certain temps de manière égale aux hommes. Et cela, évidemment, aurait dû être normal dès le début. Mais voilà que trois femmes philosophes, Clémence Ramenoux, grande spécialiste plus tard des présocratiques et de l'affrontement des contraires et de la nuit, Suzanne Roubaud, qui devint la mère de Jacques Roubaud, le poète, le grand poète et mathématicien récemment disparu, et Simone Petremann entre à l'École normale supérieure. Mais Simone Petremann présente deux caractéristiques supplémentaires par rapport aux autres. D'abord, elle est devenue, comme elle toute, l'amie de celle qui rentra l'année suivante et qui fut la plus célèbre de toute cette pléiade de philosophes et de porteuses de lumière dans la nuit du XXe siècle, à savoir Simone Veil. Simone Veil, auteur de L'Enracinement, auteur de La pesanteur et la grâce, des recueils publiés juste après la guerre, édités aussi par Albert Camus, bien sûr, La condition ouvrière et tous les autres grands livres. Simone Petremann s'effaça derrière Simone Veil. Elle est surtout restée célèbre pour la biographie admirable qu'elle publia de Simone Veil en 1974. Mais on oublie que Simone Petremann est aussi l'auteur d'une œuvre personnelle, d'une œuvre très profonde qui rejoint les problèmes les plus intimes de la pensée de Simone Veil, mais aussi de Clémence Ramenoux et de tous les autres philosophes, hommes ou femmes de leur génération. Ce problème, c'est celui de l'existence humaine dans un monde partagé entre le bien et le mal, dans un monde où la radicalité du mal, de son expérience négative, mais aussi de ceux qui y résistent, doit être affrontée directement par la conscience humaine. Dans sa biographie de Simone Veil, parue en 1974, donc, Simone Petremann retrace le parcours philosophique de son amie devenue illustre et parfois méconnue. Et cette biographie fait encore référence. Mais elle-même, en 1947, 20 ans après son entrée à l'École normale et donc juste après la guerre, publie un livre extraordinaire intitulé « Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichéens ». Voici que Simone Petremann réhabilite cette notion devenue presque une insulte, tu es manichéen, c'est-à-dire tu crois à l'opposition du bien et du mal, à l'opposition irréductible de deux principes. Eh bien oui, Simone Petremann est une des rares philosophes dualistes. La première phrase de son livre est extraordinaire. J'appelle dualiste, suivant l'usage, toute philosophie ou religion qui pose deux principes distincts. Il y a dans cette étude des philosophies anciennes, et puis elle se tournera ensuite vers la gnose, et l'origine du christianisme lui-même, il y a d'abord l'opposition de l'esprit et de la matière, du bien et du mal, comme chez Platon, puis chez Mani et Zoroastre, que Nietzsche appellera Zarathoustra, l'opposition du bien et du mal comme quelque chose d'irréductible dans le monde. Simone Petremann est une des grandes philosophes dualistes du XXe siècle. Elle transpose l'existence du monde et de la conscience dans une grande étude historique sur tous les dualismes qui culminent dans l'affrontement irréductible du bien et du mal, entre lesquels la liberté humaine doit choisir. Il faut relire Simone Petremann aux côtés de Clémence Ramenoux, aux côtés de Simone Veil, aux côtés bien entendu aussi de Camus ou de Sartre, à qui elle oppose ce dualisme irréductible, cette irréductibilité de l'opposition entre le bien et le mal dans nos vies.
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Philippine de Bélois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Feulpin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!